comme ça, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré pour déranger. Dégenré pour déranger. Dégenré pour déranger.
Une émission féministe
sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Et quand tu veux, sur radiorageuse.net ou campusgrenoble.org.
Bonjour.
Bonsoir. Vous êtes bien à Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Et ce soir, on vous parle d'Amazon, d'objets connectés,
de sécurité de données
et de gamification du travail. Voilà une grosse émission où on va faire de la revue de presse, où on va raconter des choses qu'on a trouvées, où on va passer des témoignages de personnes qui travaillent dans ces domaines-là, en espérant que ça permette de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle manière de concevoir le travail, notamment d'Amazon, mais de plein d'autres personnes.
D'écouter Anarchoani avec le morceau Ballad to the Greedy, et on va parler un petit peu de Internet of Things et objets connectés.
Internet of Things, ça vous parle? Ou alors plutôt Internet des objets? Les objets connectés représentent l'interconnexion entre Internet et des objets, des lieux, des environnements physiques. En d'autres termes, ça désigne tous ces objets du quotidien qui deviennent connectés grâce au digital. Ça peut être un système d'identification et de captation des données, par exemple la température extérieure, le rythme cardiaque ou autre, ou alors un système de transmission des données alimentant une application intelligente ou une interface comme un smartphone pour piloter l'application. En théorie, tout objet peut être connecté. C'est le web 3.0.
Du coup, en gros, l'Internet des objets, c'est un réseau qui peut être créé entre les objets de la maison et de la vie en général. Mais à quel niveau sont-ils connectés ? Eh bien, entre eux, mais aussi à votre portable ou votre box. Ça veut dire que chaque fois que vous allumez votre lampe connectée, programmez votre radiateur d'appoint pour chauffer avant votre réveil, ou que vous demandez à votre assistante virtuelle de mettre votre musique préférée, tous ces choix et actions sont enregistrés et associés à votre personne. Un bon exemple de la maison connectée, c'est Alexa, l'assistante virtuelle d'Amazon Echo, un appareil en forme d'enceinte que vous pouvez poser dans plusieurs endroits de votre maison et qui contient un micro ouvert perpétuellement pour entendre votre prochaine demande, qui sera ou non gérée par votre assistante personnelle virtuelle Alexa. Un micro ouvert perpétuellement dans votre maison. Dans votre maison, oui, où vous invitez vos amis, parlez de votre journée, vous disputez, vous vous plaignez de votre patron, etc., etc. Tout ça s'enregistre par le micro de notre chère Alexa et puis est traité dans les serveurs d'Amazon pour reconnaître si elle a été appelée. Vous imaginez que ce petit voyage de vos données laisse des traces. Eh bien, vous avez raison. Amazon le confirme, les enregistrements vocaux produits par les clients de l'assistant Amazon Alexa sont conservés indéfiniment, sauf si les utilisateurs les suppriment manuellement. Ces données sont stockées à des endroits et donc des personnes qui savent s'y prendre ou qui ont du pouvoir peuvent y accéder. Du coup, même si vous menez une vie tranquille et que vous ne vous mêlez pas de politique, que vous ne fâchez pas des gens puissants, toutes ces informations sont conservées. Êtes-vous prêt à vivre avec le risque qu'un jour vous vous retrouviez en conflit, qu'il soit grand ou petit, avec quelqu'un qui contrôle ou qui peut accéder à des informations sensibles sur votre vie privée? Là maintenant, il faut clarifier quelque chose. La confidentialité n'est pas la même chose que le secret. La confidentialité, c'est le contrôle que vous avez sur les informations vous concernant, y compris qui sait quoi, dans quelles circonstances et quand. La confidentialité consiste à avoir le pouvoir de transformer vous-même la perception que les autres ont de vous. Aujourd'hui, nous sommes effectivement ouverts à des millions de personnes inconnues qui pourraient se procurer du pouvoir de détruire notre réputation, nos relations et notre vie professionnelle en un seul clic. Vous pensez toujours que vous n'avez rien à cacher ?
Alors moi, une des choses que je trouve très impressionnante dans la communication autour des objets connectés, mais de manière générale, autour de la question des objets et du numérique, c'est la récurrence du terme « révolutionnaire ». Tout a l'air vraiment très très révolutionnaire. Et aussi, il faut faire confiance. Ça va permettre de révolutionner nos habitudes d'une manière, notamment avec les questions écologiques et le fait que maintenant, a priori, ça permet de faire des économies sur ses factures d'acheter des objets connectés une fois qu'on a fait cet investissement-là et qui permet en fait d'agir contre toutes les petites actions et les petits oublis de l'humain. Là, c'est voilà, donc ces objets connectés par la voix d'Alexa qui vont prendre en charge toutes les choses que les humains peuvent oublier.
C'est vrai que ça change beaucoup de choses dans notre vie. Effectivement, tu peux te réveiller, il y a toute la maison qui peut être mise en route sans que tu fasses rien. Après, ça commence à aider avec d'autres choses, notamment nos relations. Du coup, il y a Alexa et Google Home qui ont commencé ce trend-là, de aider avec votre couple, votre relation.
Comment ça aide ?
Ça peut écouter les conversations que vous avez.
Si par exemple on s'engueule autour de la vaisselle, parce qu'a priori Alexa ne peut pas faire la vaisselle, elle n'est pas hermétique.
Pas encore. Uh-huh. Ça détecte les tons qui montent, uh-huh, et ça peut interagir avec vous pour trouver une solution sur comment résoudre le problème.
Qui se pose comme la vaisselle.
Comme la vaisselle, oui.
D'accord. Donc ça analyse l'émotion dans la voix et du coup elle choisit d'intervenir, parce qu'a priori il y a un mot sésame pour les assistants vocaux. On doit dire quelque chose.
Il y a le mot sésame, mais pour écouter le mot sésame, il faut que le micro soit tout le temps en route.
D'accord.
Comme on a dit juste avant, c'est ouvert perpétuellement, ça ne se ferme jamais.
Donc là, toi et moi, on pourrait s'engueuler à propos de la vaisselle.
Oui.
Et là, Alexa n'aurait pas besoin du mot sésame, mais dirait « Ah, je vous conseille, grâce à telle statistique, ça serait plus économique de faire la vaisselle comme ça ».
Pas exactement comme ça. En ce moment, c'est plutôt essayer de trouver des manières pour changer le sujet.
Oh oui.
Du coup, peut-être au moment où il y a des personnes qui s'engueulent autour de la vaisselle, proposer un film ou proposer un snack sur Amazon ou proposer de la musique calme.
D'accord,
quelque chose comme ça.
Donc changer d'ambiance, quoi. Alexa aide à changer d'ambiance.
Oui.
Formidable. Et peut-être ça nous amène à la question de toutes ces données.
Oui, bah, on a dit que ces données se trimballent pas mal. Ça part de votre maison, depuis l'enceinte, ça enregistre absolument tout. Du coup, on vous passe un coup de fil, bah, surprise, c'est dans les serveurs d'Amazon maintenant. Il n'y a rien qui n'est pas gardé, tout reste dans les serveurs. Et il y a des personnes qui traitent ces données. Parce que oui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très nouveau, de très révolutionnaire, on pourrait dire, mais ça ne peut pas tout faire encore. Et une des choses que ça ne peut pas faire encore, c'est la pensée critique et aussi la transcription, reconnaître le sens de tout ce qui est dit. Du coup, il y a besoin des personnes qui vont faire ce travail pénible de corriger l'intelligence artificielle, de corriger Alexa et effectivement de transcrire les textes qui sont fournis par les utilisateurs d'Alexa.
Donc pour que la conversation soit bien écrite et qu'on puisse la garder et qu'elle soit dans un, par exemple, un français correct, c'est ça?
Oui. Okay. Et pour voir quelles sont les fautes que...
Est-ce que Alexa a bien compris qu'il fallait changer l'ambiance? Est-ce qu'elle a eu une réponse adaptée?
Oui, bien sûr, c'est ça.
D'accord. Et alors nous, on n'a pas trouvé de témoignage de personnes qui faisaient ce travail directement avec Alexa, mais on a trouvé avec Cortana.
Ouais, Cortana, c'est l'assistante virtuelle de Microsoft. Et je pense que la raison qu'on n'a pas trouvé des témoignages sur Alexa, c'est surtout les paperasses qui font signer les patrons d'Amazon à tous leurs travailleurs.
Du coup, il y a des clauses de confidentialité.
Et des énormes clauses de confidentialité.
Et du coup, c'est quelque chose qu'on abordera dans notre deuxième partie.
Exactement.
Autour d'Amazon. Alors, on vous laisse avec le témoignage. Donc, ça a été effectué par la Quadrature du Net et c'est le témoignage d'une employée de Cortana.
Nous sommes en route pour aller voir Julie, qui a travaillé pour une entreprise qui a aidé à développer Cortana, l'assistant vocal de Microsoft. On espère qu'elle va nous en apprendre un peu plus sur comment fonctionne ce type de service. Julie, bonjour.
Bonjour.
Vous avez contacté la Quadrature du Net car vous avez donc travaillé pour cette entreprise. En quoi consistait exactement votre travail?
Alors, notre travail en fait était basé sur les données que collectait Cortana. Donc quand les gens s'adressaient à Cortana, elle l'enregistrait, collectait ça, et Microsoft envoyait toutes les données à la compagnie pour laquelle je travaillais. Et nous, les transcripteurs, on se connectait sur une plateforme de travail, on avait accès à toutes les transcriptions, enfin toutes les pistes audio enregistrées par Cortana, et on devait les traiter une par une, donc écouter un par un tous les enregistrements que Cortana avait fait des utilisateurs français. Et donc un texte s'affichait qui nous montrait ce que Cortana avait compris. Et on devait corriger toutes les fautes qu'elle avait pu faire, que ce soit de compréhension, d'orthographe ou de grammaire. Et en plus de ça, on devait mettre des tags qui signalaient les événements sonores qu'il y avait dans l'enregistrement.
À quel type d'informations étiez-vous exposé?
Il y avait tout et n'importe quoi. Ça pouvait être des enregistrements, des recherches en ligne. Ça pouvait être des questions toutes bêtes comme « Hey Cortana, quelle est la météo aujourd'hui ?» ou « Quel sera le temps demain ?» Il y avait toutes sortes de données parce que Cortana récolte beaucoup, beaucoup de choses. Donc il y avait des conversations en ligne, que ce soit avec les services Xbox de gens qui jouent en réseau, ou aussi les conversations sûrement par Skype pour les gens qui utilisaient un service de traduction instantanée. Donc on avait les conversations privées avec des choses parfois très très personnelles et très intimes. Il y avait aussi les recherches internet ou les conversations, on va dire, directes avec Cortana, des gens qui parlent à Cortana et qui leur disent « Hey Cortana, imite la poule » ou « Hey Cortana, est-ce qu'on peut être heureux tout seul ?» ou des gens parfois qui étaient terriblement tristes et qui parlent à Cortana pour se remonter le moral. Et il y avait, donc pour les recherches internet, il y avait vraiment toutes sortes de choses comme vous pouvez l'imaginer. Il y avait les recherches porno de certains utilisateurs qui parlaient en chuchotant à Cortana. « Hey Cortana, trouve-moi des vidéos de telle ou telle catégorie. » Il y avait beaucoup d'adresses parce que les gens programmaient leur GPS aussi avec ça. Donc on peut avoir leur adresse personnelle ou l'adresse de leur médecin, leur avocat. Il y avait vraiment tout qui passait entre nos oreilles. Après, je me souviens, il y avait une femme, elle revenait souvent dans les transcriptions, elle travaillait dans le droit, et des fois elle citait les noms des personnes pour qui elle travaillait, et elle dictait des rapports, mais on les avait pas, les rapports étaient en tout petits morceaux, donc je pouvais pas en tirer quelque chose, mais il y avait quand même des détails importants qui passaient. Souvent Cortana enregistrait de façon non sollicitée, donc je sais pas pourquoi elle se déclenchait, mais on avait des conversations qui étaient pas censées être enregistrées à la base, donc des gens qui discutaient dans leur voiture avec leurs enfants, ou à table en mangeant, ou vraiment toutes sortes de situations, ou alors aux toilettes, ou il y avait vraiment tout n'importe quoi. S'ils parlaient, on avait l'enregistrement. Et quand les gens s'en rendaient compte, souvent ils étaient très énervés contre Cortana, donc j'entendais très souvent ça depuis de Cortana, et on transcrivait ça. Il y avait beaucoup d'enregistrements non sollicités. Et dans ces cas-là, vraiment, Microsoft collectait l'information dans tous les cas. Après, les transcriptions étaient découpées en petites pistes, et elles étaient anonymes pour les transcripteurs. Donc on n'avait pas les identifiants des gens qui utilisaient Microsoft, mais il y avait toujours des détails qui passaient, forcément. Donc il y avait des noms, il y avait des adresses, il y avait des numéros de téléphone. J'ai jamais eu des numéros de carte bleue ou des choses comme ça, mais j'ai déjà eu des numéros de sécurité sociale. C'est vraiment des choses qu'on n'était pas censé avoir personnellement.
Donc vous aviez des informations sur tout type de personnes, y compris des enfants par exemple ?
Tout type de personnes, y compris des enfants. Il y avait beaucoup d'enfants dans les enregistrements qu'on avait, énormément. Que ce soit quand ils jouaient en ligne, ou alors quand ils faisaient leur recherche internet.
Vous avez sûrement dû avoir à signer un très gros contrat de confidentialité pour être sûr que vous n'alliez rien révéler.
Eh ben non, on n'avait aucun contrat. J'ai signé de ma main aucun contrat de confidentialité. Il fallait juste s'inscrire sur le site, et dans ce cas-là, on acceptait les conditions d'utilisation du site. Mais en soi, il n'y avait rien de bien précis sur ce qu'on allait avoir. Enfin, sur ce à quoi on allait avoir accès plus tard. Quand j'ai accepté les conditions, je connaissais pas encore vraiment la nature du travail que j'allais avoir. Et vraiment, j'ai signé aucun contrat de confidentialité.
On est toujours sur Radio Campus 90.8 à Déjanré, l'émission féministe pour déranger. Et on parle de maisons connectées. On vient d'écouter un témoignage d'une travailleuse qui fait de la transcription pour l'assistante virtuelle de Microsoft, Cortana. Et qu'est-ce que c'est exactement son travail? Qu'est-ce que c'est ce qu'elle fait? Quel type d'informations passe entre ses oreilles pendant qu'elle fait ces transcriptions-là? Et quelles données sont diffusées par l'entreprise?
Ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle parle du fait que les enregistrements sont découpés en tout petits morceaux, en fait, ce qui permet que ça puisse être traité plus vite. Et ça, c'est un des principes importants pour Amazon, mais je pense aussi pour d'autres personnes, c'est le fait de faire des micro-tâches et d'avoir des foules de travailleurs extrêmement mal payés pour accomplir ces micro-tâches. Et en fait, en général, ces micro-tâches, elles servent à nourrir les algorithmes, nourrir les machines qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'intelligence de pouvoir reconnaître des choses en mouvement, de pouvoir nommer quelles sont les parties d'un chien ou ce genre de choses. Et ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui, en fait, travaillent à augmenter les connaissances des machines, Alexa, Cortana, mais aussi d'autres choses. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Amazon a créé en 2005 une plateforme qui s'appelle Mechanical Turk, en référence à un automate qui est une supercherie du 19e. L'humain se cache à l'intérieur de la machine, et c'est pas juste un humain qui joue aux échecs, comme c'était le cas pour le Turc mécanique, mais c'est plein d'humains qui vont sur cette plateforme qui sert de lien entre les entreprises qui sont anonymisées et des particuliers. Et alors on peut noter que la plupart des personnes qui font ce travail-là sont des femmes ou des personnes qui vivent dans le sud et notamment en Inde. Voilà, donc c'est pour se faire un salaire à côté. Et l'idée, c'est d'accomplir des micro-tâches qui peuvent représenter plein de choses différentes dans un temps donné, donc avec aucune possibilité de reconnaissance du travail, de droit au travail. Ces personnes n'ont même pas le statut de travailleur indépendant. Et l'idée, c'est en fait, on a un temps déterminé pour accomplir quelque chose. Et donc, s'il est fait, eh bien, on touche quelques cents, quoi. Là, par exemple, il y a des journalistes qui racontent qu'elles sont allées, elles ont essayé de bosser là-dedans pour voir ce que c'était. Et donc, pour une heure de travail, elles ont été payées 18 centimes. Alors, il y a vraiment une idée que plus tu travailles, plus tu t'améliores dans ces tâches-là, qu'ensuite, sur cet immense marché, c'est possible de pouvoir choisir les tâches qui sont de l'ordre de tes compétences, mais ça, de le faire toi-même depuis chez toi. Et non pas dans le cadre d'un travail avec un patron, quoi. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un statut qui serait un statut avancé qui permet de pouvoir avoir des offres qui sont mieux payées. Mais sauf qu'en fait, personne ne sait comment on peut avoir le statut avancé. Mais par contre, on sait qu'il faut 95% de reconnaissance de bon travail pour continuer à avoir certaines offres. Sinon, les offres disparaissent, en fait. Et on se retrouve plus qu'avec des offres qui sont moins bien payées, voire qui sont impossibles à réaliser dans les temps impartis. Voilà, et donc je rappelle, la plupart des personnes qui font ça sont des personnes qui travaillent depuis leur domicile. Et si on écoute les personnes, elles racontent que c'est soit pour pouvoir continuer à s'occuper de leurs enfants, soit c'est des personnes malades qui ont besoin de pouvoir continuer à gagner de l'argent.
Ouais. Et là aussi, dans le témoignage, on voit à un moment qu'il y a énormément d'insultes qui sont dirigées vers les assistantes virtuelles. Et c'est intéressant de voir comment on traite ces assistantes virtuelles qui ont presque tout le temps des voix féminines.
Ouais, on dirait que c'est plutôt des assistantes.
Ouais. Si on cherche un petit peu sur Internet, on peut voir que toutes ces assistantes virtuelles, elles reçoivent des très grosses quantités d'harcèlement par les utilisateurs des appareils.
Donc ce n'est pas vraiment des humains, et c'est des personnes qui sont au service et avec une voix féminine à qui on peut demander n'importe quoi et qui régulièrement n'a pas de réponse adaptée.
Oui, c'est des produits d'intelligence artificielle, du coup c'est pas des individus. Il n'y a pas des réponses qui peuvent être données, qui sont créées. C'est pas de la vraie intelligence. C'est quelque chose de fabriqué. Du coup, parfois dans les réponses qui sont données, dans les questions qui viennent depuis les utilisateurs, ce sont des réponses très stéréotypiques qui sont données. Du coup, par exemple, si on prend Siri, l'assistante virtuelle d'Apple, et on lui demandait, il y a quelques mois, on lui disait par exemple « t'es grosse », bah elle allait nous répondre « ah oui, ça doit être à cause du chocolat ». Voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Apparemment, ça va changer, ou ça vient de changer. Ça a beaucoup à faire avec le mouvement MeToo.
Bah en tout cas, c'est comme ça que c'est nommé.
Du coup, il y a quelques mois, par exemple, Siri pourrait répondre à « Siri, tu es moche ». Je le suis. Et en fait, c'est pas des êtres humains. On n'a pas une expression faciale qui va nous permettre de savoir que c'est mal ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas un indice que c'est de l'harcèlement. Il n'y a pas une correction de ce comportement qui va venir après. Du coup, ça nous enlève tout sentiment de culpabilité sur ce qui est en train de se passer.
Sur le traitement des assistantes vocales.
Oui.
Qui sont des voix la plupart du temps féminines.
Et en fait, les assistantes vocales sont sexuées la plupart du temps en tant que femmes. Et ça, c'est assez problématique. Quand c'est surtout des gars qui les programment. Ça fait du traitement qui est très stéréotypé. Ben, les chercheurs qui ont fait des recherches sur ce fait que les assistantes numériques sont généralement des voix féminines avec des noms féminins comme Siri, Alexa, Cortana, etc. Ça renforce en fait le stéréotype que les femmes sont des êtres serviles qui existent pour faire des offres à d'autres personnes et pour aider, pour être là, pour être disponible.
Mais parce que je trouve on peut parler du fait que le corps féminin est beaucoup utilisé dans la pub, mais la voix féminine en particulier. Il y a quelque chose où on est habitué à entendre une voix qui nous conseille de faire des choses, alors qu'on va voir la voix masculine plutôt comme une marque d'autorité qui va nous ordonner quelque chose. Et du coup, il y a vraiment cet enjeu de une voix qui est là, qui écoute, du coup qu'on peut insulter lorsque elle enregistre à des moments où on n'a pas voulu. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec cette voix-là. Ça a à voir avec comment est conçue la machine et avant tout, comment est conçue l'entreprise qui fabrique cette machine et qui considère qu'à un moment, pouvoir parler à une machine avec une voix féminine pour éteindre ta lumière et que ça fasse des milliers de kilomètres, c'est beaucoup plus pertinent que juste d'appuyer sur le bouton.
Ouais, et c'est exactement ces entreprises qui font ça, qui choisissent de genrer leurs assistantes vocales en tant que femmes. Car il y a beaucoup de recherches qui montrent que lors des gens ont besoin de l'aide, ils préfèrent l'entendre délivrer d'une voix féminine. Et ils préfèrent une voix masculine quand il s'agit des déclarations faisant autorité.
C'est super, moi et l'article, on est d'accord.
Et non seulement ça, mais il y a des gens qui dirigent très souvent de la violence verbale, comme on a vu, mais aussi des insinuations sexuelles vers leurs assistantes vocales, qui ont une tendance en général de répondre avec des réponses très dociles. Et il y a une étude qui a été éditée sur ça, qui s'appelait « Je rougirais si je pouvais », qui est une réponse que Siri donnait à des insinuations sexuelles.
Et donc ça, a priori, ça a changé, c'est-à-dire il y a une réflexion en lien avec la valorisation du féminisme grâce à MeToo, qui a touché aussi les entreprises tech et qui du coup se sont dit « Ah ben tiens, peut-être il faudrait que les assistantes vocales répondent plus quand ce qui se passe n'est pas correct, c'est ça ?»
Ouais. Du coup, tous ces changements sont passés à cause de cette nouvelle vague de féminisme que ça devient de plus en plus acceptable dans les médias. Et du coup maintenant, si tu demandes à Alexa si elle est féministe, elle va répondre avec un grand « oui ». Et si, par exemple, il y a du innuendo sexuel, elle va plutôt brusquement, on va dire, en disant « je ne veux pas répondre à cela » ou on répondant pas, point.
Alors moi, ce que je trouve assez intéressant, bon, déjà, c'est voilà, donc une intelligence artificielle féministe, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas sûre que c'est celle qui va être fabriquée par Amazon qui sera intéressante. Parce qu'on rappelle qui sont les personnes qui fabriquent ça, qui sont les personnes qui codent, qui sont les personnes qui sont dans le numérique actuellement. C'est pas des meufs et c'est pas des féministes. C'est pas pour dire que ça n'existe pas. Mais juste qu'ils et elles n'ont pas le pouvoir socio-économique. Et moi, ce que je trouve intéressant avec cette histoire d'objets connectés, c'est que vraiment, on va mettre la culpabilité sur l'individu. C'est-à-dire, on va dire, ah, en fait, on s'est rendu compte que les personnes parlaient mal à Alexa. Donc c'est bien, on en a réalisé. Mais en fait, je sais pas comment dire, c'est évident. On vit dans un monde où on parle mal aux subalternes. C'est ça qui est valorisé dans toute la société. Et du coup, c'est une évidence qu'une machine, qu'un animal, qui n'a pas la possibilité de se défendre en fait face à ce qui se passe, se fasse maltraiter. Du coup, c'est pas une nouveauté de se dire. Ils ont des données, ils savent la quantité de temps que les gens y passent à regarder du porno, par exemple. Tout ça est su. Donc c'est pas une nouveauté de se dire que voilà, les assistantes vocales fabriquent l'accès à de la pornographie en fait. Mais on va toujours culpabiliser les individus qui font des pratiques qui ne sont pas correctes, alors qu'en fait ces pratiques-là ont été fabriquées par le système dans lequel on vit, mais aussi par les patrons et les cadres de ces entreprises-là. Et de la même manière, il va y avoir un truc de parler. Comment dire ? En fait, comme les objets sont connectés, du coup, c'est beaucoup plus facile de hacker des objets qui sont connectés parce que la connexion est à plein d'endroits pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, ce qui fait peur aux individus, c'est donc le fait qu'il y ait un individu mal intentionné qui pénètre dans leur vie privée. Mais en fait, Jeff Bezos, c'est un individu mal intentionné.
Ça, c'est sûr.
Mais par contre, c'est pas du tout de eux qu'on parle, c'est vraiment un imaginaire de jeunes personnes qui peut-être utilisent Tor, d'ailleurs, hein, voilà.
Ah oui ?
Ouais, un garçon, toujours. Et de la même manière, de parler, en fait, de harcèlement, comme si c'était pas quelque chose qui était encouragé par la société dans laquelle on était, envers les femmes et envers toutes les personnes subalternes. Ok, eh ben, on vous retrouve tout à l'heure sur Radio Campus 90.8.
We'll be right back.
Vous êtes bien sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger, sur Radio Campus 90.8, et on a écouté Accidente avec le morceau A Cambio de Qué.
Maintenant, Amazon. Quoi dire sur une entreprise qui a commencé par vendre des livres en 1994 et maintenant il n'y a pas grand chose qu'elle ne vend pas. C'est essentiellement un centre commercial numérique avec tout ce que ça apporte. Même plus, il ne pourrait pas y avoir un centre commercial physique avec autant de magasins que des vendeurs sur Amazon. Et les consommateurs l'adorent. Enfin, comme on adore les centres commerciaux, t'as l'expérience du centre commercial mais sans la foule. Et si t'as les thunes pour être un client premium, bah tu peux te faire livrer ta commande le lendemain. C'est super pratique, non ? C'est probablement pourquoi Jeff Bezos, son fondateur, est devenu la personne la plus riche au monde. Il a 116 milliards. Sa fortune est tellement énorme que pour comprendre ce que ça représente, il faut utiliser des analogies. À Seattle, aux États-Unis, ville de création d'Amazon, beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver un logement abordable. Jeff Bezos, par contre, pourrait acheter 160 000 maisons sur Seattle sans avoir besoin de prêt. Mais il pourrait en plus payer pour le fonctionnement de toutes les écoles publiques de l'État de Washington pendant une décennie. Et après tout ça, il lui resterait encore assez d'argent pour continuer d'être multimilliardaire. Ces milliards pourraient faire tourner l'État de Washington tranquille, des écoles aux autoroutes, etc., pendant au moins 3 ans, sans que ces 7,1 millions d'habitants ne paient d'impôts. Ou encore, si 2 millions d'Américains de classe moyenne rassemblaient tous leurs actifs, leur richesse n'atteindra toujours pas celle de Bezos. C'est possible de gagner autant d'argent qu'en exploitant. Que ce soit des ressources ou des humains, et tout ceci sans payer d'impôts. On verra comment ça se fait plus tard. Alors on va regarder comment ces patrons multimilliardaires traitent leurs employés. Il ne s'agit pas que d'Amazon, c'est pour cela qu'on va parler des nouvelles pratiques en entreprise qui sont présentées comme innovantes, alors qu'elles font rien de plus qu'augmenter la productivité des travailleurs, tout en les privant de leurs droits les plus fondamentaux, de manière ludique.
Alors, on va parler de la question des impôts. Donc, voilà, Amazon ne paye pas d'impôts. Et donc, les méthodes pour ça, c'est soit en s'installant dans des États où les taxes, notamment aux États-Unis, où les taxes sont moins grandes, mais aussi tout simplement en ne les payant pas, quoi. Ou en Europe, en choisissant de mettre son siège social au Luxembourg, paradis fiscal, et à l'aide de longues chaînes de sociétés écrans. Le choix des lieux physiques est important. C'est notamment dans des bassins sinistrés de l'emploi, ce qui permet de faire du chantage à la fermeture en cas de réclame. Mais aussi en obtenant des subventions des États et ou des régions dans lesquelles les entrepôts s'installent, que ce soit donc des subventions pour l'emploi ou pour la fabrication des routes afin d'acheminer les colis. En sachant que les emplois créés sont en fait liés à la destruction d'emplois par ailleurs dans des espaces ou des structures ne pouvant pas soutenir la concurrence. Donc ça, c'est les critiques qui sont souvent apportées à Amazon et notamment en France, hein, ça marche bien de critiquer Amazon, on continue à l'utiliser, mais en tout cas, on est assez critique de l'impérialisme américain et de comment ça fonctionne. Il s'avère que Amazon empoche quand même des subventions publiques pour ensuite faire travailler des personnes qui n'ont pas d'autres possibilités dans des conditions vraiment dégueulasses.
Et maintenant, on va écouter un petit témoignage.
Lecture du témoignage d'Amélie, 30 ans, qui a travaillé quelques semaines au sein de la plateforme d'Amazon à Montélimar, dans la Drôme. Les agences d'intérim de Montélimar recrutent en fin d'année des hordes de salariés sur les 4 postes de travail de la plateforme Amazon, implantée il y a 3 ans. Vous pouvez y être admis comme « Hitcher », pour réceptionner les marchandises et les enregistrer informatiquement. Stower, pour les ranger dans les kilomètres d'étagères de l'entrepôt. Picker, pour arpenter les allées et rassembler les produits commandés. Ou Packer, pour les emballer avant expédition. C'est en tant que piqueuse que j'ai découvert l'univers d'Amazon, l'univers des codes-barres. Tout a un code-barre chez Amazon. Les articles, les 350 000 emplacements sur les étagères, les chariots qui servent à déplacer les produits commandés, les gens
qui poussent ces chariots, les imprimantes, les voitures. Les scanettes portatives dont chacun est équipé pour lire les codes-barres ont aussi un code-barre. Elles sont reliées au réseau Wi-Fi qui peut les localiser dans l'entrepôt. Tout a une réalité physique doublée d'une existence informatique. Les managers qui sont derrière leur ordinateur savent en temps réel, grâce à ces outils, où se trouve un livre, sur quel chariot il a été enregistré, quel intérimaire pousse le chariot, où il se déplace dans l'entrepôt, à quelle heure il s'est mis au travail en scannant son code-barre personnel, quelle a été la durée exacte de sa pause, et combien d'articles il pique par heure. Cette productivité personnalisée est évaluée en permanence, et des managers viennent trouver individuellement chaque piqueur pour lui donner sa performance et le conseiller si celle-ci n'est pas satisfaisante. Il faut être plus dynamique. Tu perds trop de temps en ramenant les articles à ton chariot. Tu as 85 articles par heure, m'a lancé un jour un manager au détour d'un rayon, alors que je n'avais jamais vu cette personne auparavant. Mais les remontrances peuvent aussi prendre une forme numérique. Si vous garez par exemple votre chariot sur un emplacement gênant, le code-barre qui y figure permet de savoir que c'est le vôtre, et vous recevez un message sur l'écran de votre scan. Merci de garer ton chariot sur les emplacements autorisés. Les salariés qui sont aujourd'hui embauchés en CDI ont commencé comme vous, en intérim. Si vous vous montrez productif et que vous avez un bon comportement, vous avez peut-être un avenir chez Amazon. C'est par ces mots que nous accueille un responsable le premier jour. La productivité est, à partir de ce moment-là, une obsession qui ressort dans toutes les conversations. En tant que piqueur, nous devons rassembler plus d'une centaine d'articles par heure en arpentant les rayons sur une distance cumulée de 15 à 25 km selon notre rapidité et selon la dispersion des articles qui défilent sur l'écran de notre scan. Cet objet nous guide parmi les étagères, nous indiquant les coordonnées du prochain article attrapé. L'entrepôt est divisé en zones, subdivisé en allées, elle-même subdivisée en profondeur d'allée, puis en hauteur d'étagère. Le parcours est programmé automatiquement de façon rationnelle pour minimiser les distances d'un point à un autre. Et aussitôt que les coordonnées d'un livre s'affichent, un compte à rebours de quelques secondes défile avec cette phrase « Il est temps de piquer ». Le nombre total d'articles restant à piquer et le temps imparti pour les rassembler tous apparaît en dessous. Dans l'empressement général, la mise en concurrence joue à plein. Sinon parce que le CDI est un sésame à décrocher, au moins parce que le non-renouvellement d'un contrat d'intérim est une épée de Damoclès au-dessus de chaque tête. Certains, pourtant, à qui j'ai demandé la raison de leur zèle, n'invoquent pas toujours d'emblée l'angoisse d'être éjectés, même si cette peur est invariablement mentionnée dans ces termes. Ils veulent battre des records, comme ça, pour la performance et la reconnaissance qui va avec. Un bon salarié peut être porté au nu comme étant élu « associate de la semaine » par les managers qui l'applaudissent tous en cœur. Aller aux toilettes qui se situent à l'extrémité de l'entrepôt fait dégringoler votre prod. Pousser son collègue pour se saisir en premier d'un chariot la fait grimper. L'idéal, et c'est d'ailleurs la norme, étant d'arriver à l'avance le matin pour préparer scan et chariot et gagner de précieuses minutes qui feront peut-être la différence. C'est aussi cela, avoir un bon comportement. À l'embauche, le mail de l'agence d'intérim précise à noir sur blanc « Il faut arriver un quart d'heure à l'avance, ils aiment bien ». Avoir un bon comportement, c'est par ailleurs accepter les heures supplémentaires. Au matin du 2 décembre, lorsque nous arrivons à l'entrepôt vers 5h30, l'équipe de nuit, qui finit habituellement bien avant, est encore là. Le discours d'accueil, qu'une manageuse fait quotidiennement pour commencer la journée, nous invite aujourd'hui à rester une demi-heure de plus pour faire face à une augmentation inattendue des commandes. L'équipe de nuit a fait l'effort, comme vous l'avez vu, nous vous demandons de le faire aussi pour que l'équipe suivante n'ait pas une charge de travail insurmontable. Dans cette ambiance d'hyper-individualisation, elle évoque soudain l'esprit d'équipe et la solidarité. Les gens restent parce qu'ils tiennent à leur emploi. Ce discours d'accueil, servi chaque matin à 5h50 au moment de la prise de poste, vise à motiver les troupes, à annoncer le nombre de commandes qu'il faudra préparer pour la journée, à prévenir les erreurs constatées la veille, ou à donner des conseils sur le rythme de vie à avoir lorsqu'on travaille chez Amazon. Ne vous couchez pas trop tard, n'hésitez pas à faire une sieste. Mettez une lumière forte au réveil pour aider l'organisme à se mettre en route. Mangez bien à la pause. Cette dernière injonction est tout à fait paradoxale. Les deux pauses de 20 minutes qui nous sont accordées ne laissent en aucun cas le temps de bien manger. Si vous en avez l'intention, il faut traverser tout l'entrepôt. 3 à 4 minutes. Passer par le poste de sécurité. Rejoindre votre casier pour prendre votre pique-nique et atteindre la salle de pause. Là, il faut en fait choisir entre avaler une bouchée de sandwich ou aller aux toilettes. Faire les deux étant assez ambitieux, puisque vous devez avoir fait le chemin en sens inverse et retrouver votre chariot lorsque retentit la sonnerie qui annonce la reprise du travail. Une remarque laconique accueille les retardataires. « Jeune fille, en retard !» La pression est énorme, la fatigue difficile à gérer. L'ambiance est à la méfiance, tout est verrouillé. Avant de signer un contrat de travail, il faut paraffer 3 pages qui nous engagent à la confidentialité la plus totale. Rien ne doit sortir de l'entrepôt. Et raconter quoi que ce soit à des concurrents, bien sûr, mais aussi à vos amis et à votre famille, peut vous être reproché. La peur organisée, la surveillance de nos moindres faits et gestes, et la contestation réduite au silence. C'est ce qui se joue chaque jour sous les néons de l'entrepôt d'Amazon, avec, pour principale arme de persuasion, la promesse d'un emploi.
Alors, ayant écouté ce témoignage juste avant de commencer, on comprend tout ce qui se passe dans les entrepôts d'Amazon, parce que, en fait, c'est les employés d'entrepôts qui subissent toutes les choses qu'on vient d'entendre et ce qu'on verra plus tard. Les cadres et celles et ceux qui travaillent dans les bureaux se trouvent bien sûr aussi dans un endroit énormément surveillé, mais leurs conditions de travail sont sans doute meilleures. Et ça se passe aussi au niveau que leur travail, le travail des cadres et le travail des travailleurs des bureaux, c'est donné comme un exemple aux travailleurs d'entrepôt pour les motiver avec la possibilité qu'il ou elle pourrait un jour avoir un emploi comme ceci. Mais comme les conditions de travail chez Amazon sont aussi bien connues, et il y a des témoignages pour le prouver, comment tout le monde ne connaît pas ces pratiques d'Amazon alors ? Amazon se charge, en mettant des employés, de rassurer le monde sur Twitter. Du coup, maintenant, on peut être soulagé que les employés peuvent utiliser les toilettes à des moments. Sur Twitter alors, il y a beaucoup de comptes toujours actifs, qui sont apparus au moment où il y avait beaucoup de critiques et des commentaires négatifs sur la richesse de Jeff Bezos. Et il y a eu aussi une augmentation des plaintes sur la santé et la sécurité dans les entrepôts d'Amazon. Et aussi un rapport britannique en avril 2018 qui a affirmé que les employés d'Amazon passaient leur poste dans les toilettes ou pissaient dans des bouteilles pour s'assurer qu'ils respectent leur quota de productivité. Ces comptes alors sur Twitter sont très uniformes, ils comportent tous un logo Amazon et une photo du propriétaire du compte posée dans un entrepôt ou dans leur maison, etc. Tous et toutes sont très optimistes et surprises. Ils sont tous très contents de la façon dont Amazon les traite. Ce sont tous et toutes des travailleurs en entrepôt. Les cadres apparemment n'ont pas besoin de nous raconter leur situation. Amazon alors nous rassure que ses ambassadeurs étaient des vrais employés qui travaillaient dans des vrais centres de distribution et pas des robots de Twitter. Et il n'y a pas eu de réponse par contre aux questions sur la création des comptes ou sur la rémunération des employés pour la défense de l'entreprise sur les réseaux sociaux. La situation n'est pas bonne. On peut prendre l'exemple de l'Écosse où les travailleurs chez Amazon sont forcés d'habiter dans des tentes autour de l'entrepôt où ils travaillent, pour pouvoir s'en sortir avec le coût de la vie. Malgré les nuits glaciales écossaises, la tente était plus facile et moins chère que les trajets domicile-travail, a déclaré un employé d'Amazon, même si hier quelqu'un lui avait volé son équipement de camping. Amazon alors facture à ses employés le service de navette vers le centre de distribution, qui, par rapport aux employés, rognent une grande partie du salaire hebdomadaire, forçant les gens à chercher toujours des moyens plus désespérés de rendre le travail rémunérateur. Et encore, Amazon devrait avoir honte de payer si peu à ses employés qui doivent camper en plein hiver pour joindre les deux bouts. La société a été critiquée le mois dernier par des militants locaux qui ont affirmé que les travailleurs intérimaires travaillaient jusqu'à 60 heures par semaine, pour un peu plus que le salaire minimum. Ils sont vraiment durement traités. Et ceci est surtout évident quand on sait que Jeff Bezos gagne le salaire annuel de ses employés les moins bien payés, tous les 11,5 secondes. Du coup, tous les 11,5 secondes, Jeff Bezos gagne tous les salaires que ses employés les moins bien payés. gagnent dans une année. Voilà. Amazon, d'ailleurs, a augmenté le salaire minimum pour tous les travailleurs américains à 15 dollars par heure. Cette décision affecte 250 000 employés à temps plein et 100 000 travailleurs saisonniers. Si on suppose qu'un travailleur travaille environ 40 heures par semaine, le salaire moyen annuel sera proche de 30 000 dollars par an. Du coup, c'est ça que Jeff Bezos gagne tous les 11,5 secondes. Même comme ça, même avec cette augmentation du salaire minimum, le ratio entre la paie de Jeff Bezos et de ses travailleurs reste énorme. Et pour donner un exemple, le rapport du PDG au salaire moyen des employés était de 25 à 1 en 1975, de 112 à 1 en 1995, et maintenant en 2017, c'était à 312 à 1. C'est énorme. Et en fait, c'est comme ça que les employés sont traités, et après la quantité et qualité de travail qui leur est demandé est trop pour ça. C'est comme si l'entreprise voulait que nous soyons des robots, ces embauches, sans jamais qu'ils s'arrêtent, sans jamais laisser les esprits s'éloigner de la tâche. Et il y a vraiment une pression incroyable pour supprimer les défaillances humaines, on pourrait dire, qui nous rendent moins efficaces qu'une machine en ce monde où on les travaille comme celui-ci chez Amazon. En fait, toutes les parties de la vie des travailleurs chez Amazon ont affaire avec le temps. Le temps pour traverser l'entrepôt, le temps pour manger, le temps pour aller aux toilettes, pour se coucher, pour travailler, pour piquer, le temps. Sur ce sujet, Amazon a été accusée de discrimination religieuse par trois travailleuses musulmanes du Minnesota qui disaient que Amazon, en fait, leur a refusé du temps, de l'espace pour prier et leur a régulièrement attribué un travail moins favorable que leurs collègues blancs, selon une plainte fédérale. Du coup, les travailleuses étaient toutes des femmes racisées de Somalie. Et valide qu'Amazon a été un environnement hostile pour les travailleuses musulmanes dans l'entrepôt. Et il y a des tâches très difficiles qui leur ont été déléguées, comme l'emballage d'articles très lourds. Et aussi, elles ont été privées de certaines formations qui ont été permises à d'autres collègues. Et comme on peut voir, c'est pas seulement là où Amazon n'arrive pas à libérer du temps pour ses employés. Il y a d'autres employés dans un entrepôt d'Amazon à Sacramento, en Californie, qui ont protesté contre la décision de l'entreprise de licencier une travailleuse qui a manqué une heure de travail pour rester au chevet de sa belle-mère qui était en fin de vie. Même si elle a communiqué avec ses gestionnaires et leur a donné un préavis, du coup Amazon a un système de minutement du travail très complexe, qui suit chaque instant où un employé est là et les tient responsables de chaque pause de plus de 5 minutes, qui est ce qu'ils appellent une infraction. Du coup, si tu prends une pause de 6 minutes, par exemple, pour aller aux toilettes, t'as une infraction. C'est pas une pause. Les travailleurs, du coup, insistent sur le fait que le processus est automatisé et contrôlé par l'intelligence artificielle, mais Amazon nie ces informations naturellement, je veux dire. Un autre truc très important à dire, c'est le sujet des femmes enceintes. Du coup,
a priori, quand on a un fœtus dans le ventre, on va pisser plus souvent, on se fatigue plus souvent, la position debout est plus douloureuse. Mais du coup, c'est pas pris en compte par Amazon, tout ça?
Non, pas du tout.
Ah d'accord.
Du coup, on va prendre l'exemple de Beverly Rosales, qui travaille sur Amazon en Californie, qui était enceinte en octobre. Et l'une des premières personnes qu'elle savait qu'elle devait dire, qu'elle devait annoncer son état, c'était son manager chez Amazon. Du coup, Rosales savait qu'elle devrait commencer à faire plus de pauses aux toilettes. Et elle craignait vraiment déjà que ses patrons allaient avoir un problème avec ça. Du coup, elle faisait des journées de travail de 10 heures. Ce qu'elle faisait comme travail, c'était qu'elle scannait des articles et elle remplissait un sac, lequel elle envoyait à une autre personne qui le remplissait, l'emballait, etc. En fait, ses craintes étaient justifiées. Et c'était pas la seule, parce qu'il y avait plein d'autres personnes qui ont eu le même traitement. Il y a eu des poursuites à la justice parce que c'était vraiment quelque chose qui revenait souvent. Elle a dit que ses patrons l'ont harcelée au sujet du temps qu'elle prenait pour aller aux toilettes et du ralentissement de son rythme de travail pendant sa grossesse.
Alors, les témoignages que tu viens de rapporter nous permettent de voir que Amazon traite de manière vraiment dégueulasse ses employés, que ce soit au niveau des entrepôts, au niveau des cadres et au niveau des marchés comme le mécanique turc. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que du coup, les personnes sont payées en carte cadeau Amazon ou alors sur Amazon Pay, sur lequel du coup Amazon retire 20% d'argent de ce qu'il était censé payer ses employés pour 18 centimes l'heure, on le rappelle. Donc voilà, pour les personnes qui sont en entrepôt, tout est géré par l'algorithme. Le temps de pause n'a pas l'air de vraiment exister. Ils ont l'air d'avoir vraiment bien ciblé combien de temps pour pisser il faut à chaque humain. Et du coup, de faire une moyenne assez haute sur combien de temps il faut, ou assez basse, je ne sais pas dans quel sens ça passe. Et ça donne des conditions de vie et de travail qui sont assez conséquentes. Et un peu partout dans le monde, que ce soit du coup en France, à Montélimar ou en Allemagne, il y a des personnes qui s'élèvent par les voies juridiques, mais aussi par les questions d'organisation syndicale contre les conditions de travail. Et du coup, ils commencent à se mettre en place des choses de l'ordre du syndicat, parce qu'on nous fait aussi croire que tout ça est très très dématérialisé, que tout ça n'a pas d'existence physique. Mais ces témoignages nous permettent de nous dire qu'en fait, entre l'ordinateur, la commande et notre produit, en fait, il y a des humains qui sont exploités, et que comme partout, ils sont exploités dans des lieux qui sont physiques. Et que qui dit lieu physique dit possibilité, dans la mesure du possible, d'auto-organisation et de syndicats, tout en sachant que le patronat sera toujours contre le fait que les travailleurs revendiquent leurs droits, même si ça a l'air d'être des droits basiques, comme pouvoir aller pisser sur son lieu de travail. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite pause musicale ?
Oui, on pourrait par exemple écouter « Chômeur branleur » par les Vulves Assassines.
Vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger, dans laquelle on parle de pratiques d'exploitation, notamment des salariés, en particulier des femmes, mais pas que. Et alors là, on vient de faire un constat sur qu'en était-il des conditions de vie des personnes qui fabriquent les paquets pour Amazon. Alors voilà, Amazon est vu quand même régulièrement, c'est dit que c'est assez révolutionnaire dans plein de choses. Alors concrètement, ce que ça fait Amazon, c'est que ça range au même endroit des objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et du coup, ça permet que la défaillance humaine, l'erreur humaine soit moins régulière et que du coup, les personnes se trompent moins sur les paquets. Et aussi que vu que le rangement est complètement bordélique, chaotique et aléatoire, il y ait plus de chances que dans un colis, quand est acheté deux objets, il se trouve moins loin, donc ce qui permet de réduire les déplacements à l'intérieur de l'entreprise et du coup d'augmenter la vitesse à laquelle sont préparés les paquets. Voilà. Mais bon, du coup, pour se défendre de tout ça, il y a plusieurs opérations commerciales, comme celle que tu racontais autour de dire sur Twitter que les conditions de travail sont bonnes, ou encore de proposer des jeux. Voilà, parce qu'on sait que les jeux, c'est important.
Une minute pour comprendre la gamification. Tout comme 31 millions de personnes en France, Pierre, Paul et Jacques aiment jouer aux jeux vidéo. En revanche, il y a certaines choses qu'ils aiment moins faire, comme les courses, la comptabilité, ou encore apprendre l'anglais.
How are you today? Are you happy?
Et s'il existait un système pouvant reprendre les mécaniques qui nous rendent accro aux jeux vidéo pour les transposer sur d'autres domaines? Ce moyen existe, c'est la gamification. Aujourd'hui, des experts de la gamification sont appelés en renfort pour rendre plus fun des domaines perçus comme ennuyeux et même recruter de nouveaux accros. Avec la gamification, vous révolutionnez les habitudes de tous les jours et améliorez la productivité. Alors, innovez et insérez du jeu dans vos projets. Pensez gamification.
Alors, la gamification. Il y a aussi d'autres personnes qui appellent ça la ludification. Il y a un débat là-dessus, mais on ne va pas rentrer dedans. Alors, en gros, la gamification, c'est décomposer les éléments du jeu pour les utiliser dans d'autres domaines. Ou encore, comme dans l'extrait, motiver des individus à faire des tâches ennuyeuses. La motivation est un facteur déterminant de la productivité. Le jeu est a priori rien à voir avec le travail. C'est une activité de loisir qu'on effectue juste pour elle-même. Si on déconstruit ce qui compose le jeu, on peut dire qu'il y a avant tout des règles, des points qui permettent à la fois de reconnaître la progression individuelle, mais aussi de voir celle des autres, et donc d'être en compétition, de la concentration sur un but clair, et tout ceci dans un espace qui est hors de la vie réelle. Par exemple, combien de fois on a découvert chez nos camarades de jeu ou nous-mêmes des penchants étonnants. On joue pour le plaisir, pour passer le temps, pour se vider la tête ou pour combattre l'ennui. L'ennui, ça peut être provoqué par la répétition, l'obligation ou le manque de sens dans ce que l'on fait. Ça ressemble un peu au travail, non ? Ça tombe bien, parce que dans cette partie d'émission, on va parler de gamification et d'entreprise. Alors la gamification à l'entreprise, elle intervient à plusieurs endroits, pour les cadres, pour les ouvriers, pour les politiques de recrutement. Les experts en gamification relèvent 6 points qui leur semblent importants dans les jeux. Donc le premier, c'est justement les points qui apportent de la gratification, les niveaux pour le statut, les challenges pour la réalisation, les badges pour la créativité, les classements pour la compétition et la dimension sociale pour l'altruisme. Alors je crois que ce qu'ils appellent dimension sociale, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Alors, il s'agit du monde de l'entreprise, on est sur une approche qui est quantitative. On ne parle pas de bien faire son travail, ce qui apporte une gratification en soi, mais d'augmenter les cadences pour un travail fatigant et rébarbatif. Avec la gamification, on est un peu dans une nouvelle phase de la conception du travail qu'on va nommer travail-passion. Voilà. C'est important d'être passionné. Et plus notre travail est rébarbatif, plus il faut trouver d'autres moyens de se passionner. Donc Il ne suffit plus juste de vendre sa force de travail contre de l'argent, il faut au plus le faire en souriant et en s'amusant. Mettre de la gamification dans des mécanismes d'entreprise, c'est pas vraiment pour rendre les employés plus heureux, c'est pour qu'on soit plus motivé et donc plus productif. La reconnaissance, elle devient symbolique grâce à tout ce système de points. Bah, les symboles, c'est pratique. Pour les entreprises, ça coûte pas grand-chose. Et les employés sont mis en compétition dans des jeux qui leur permettent de gagner des prix. Et on sait bien que pour qu'il y ait un vainqueur, il faut qu'il y ait beaucoup de perdants. Et les prix sont en général des cadeaux. Donc on pourrait appeler ça du paiement en espèces par des entreprises. Et ça non plus, ça coûte pas extrêmement cher. Alors on pourrait dire que le jeu, et notamment le jeu en ligne, prend de plus en plus de place dans nos vies. On passe environ 7 heures par semaine à jouer à des jeux, et ce temps passé au jeu augmente de 20% entre 2018 et 2019 en France. Alors l'OMC commence à s'inquiéter d'un trouble lié à ces activités de jeu, et du coup ils ont l'air de dire qu'il y a peu de personnes qui sont atteintes de ce trouble, mais que possiblement ça serait n'importe qui jouerait qui pourrait développer une dépendance. Et comment est-ce qu'on remarque une dépendance? Eh bien c'est, est-ce que d'autres sphères de nos vies pâtissent de ce qu'on fait, et notamment la question de la reproduction. Alors si on se pose la question de réussir à faire sortir quelqu'un pour manger alors qu'il est en train de gagner un niveau, bah on peut dire que ça pâtit sur la question de la reproduction. Alors dans les jeux, en général, on nous propose d'accumuler de l'argent, de l'expérience qui est valorisée directement en augmentant de niveau, et tout ça en passant le plus de temps possible à faire des gestes qui, dans le reste du temps, nous paraîtraient assez idiots. En fait, c'est pas pour rien que la petite pub autour de la gamification nous parlait de l'addiction. Voilà, c'est des véritables questions, parce que là, ce qui est proposé, c'est en fait d'avoir des jeux qui viennent dans le travail et qui ont ces mécanismes du jeu. Donc, notamment, la question des paliers. On va prendre l'exemple de lorsqu'on est en randonnée. Hein, voilà, quand on fait une randonnée, on n'est pas en train de compter ses pas, a priori. Mais par contre, quand on s'approche du sommet, eh bien on dépasse son énergie, sa fatigue, sa vitesse de pas, parce qu'il y a un enjeu, il y a une récompense qui est derrière, pouvoir contempler les montagnes depuis en haut. Alors quand on atteint un palier dans un jeu, en général, il ne se passe pas grand-chose, à part le prochain. Donc il y a juste la reconnaissance rapide, peut-être visibilisée par un badge, qu'on a pu dépasser tant de kilos d'ennemis tués ou je ne sais pas quoi. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ces mécanismes, en fait, ont été mis en valeur par des scientifiques dans les années 30, notamment Skinner, donc, qui est un scientifique qui se place dans la catégorie comportementaliste radicale. Donc pour lui, tout est comportement, que ce soit quelque chose qui est de l'ordre du privé ou du public. Ce qu'il entend par privé, c'est pensée et émotion. Il appelle ça des événements privés et dit que ce qui distingue un événement privé d'un événement public, c'est que sur les événements privés, on a moins de visibilité. Alors ce qui est pratique, c'est qu'avec la collecte des données, maintenant sur les événements privés, eh bien on a des informations, c'est pas si opaque que ça. Voilà, donc Skinner, lui, il a pas mal fabriqué des cages dans lesquelles il a mis des pigeons et des rats. Et donc ça, vraiment son idée, c'était comment est-ce qu'on peut renforcer certains comportements et comment est-ce qu'on peut en abandonner d'autres. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour d'autres êtres vivants? Donc voilà, ça commence par les pigeons et les rats. Mais en fait, c'est très clair que c'est aussi des dynamiques qui sont utilisées pour les humains et pour les jeux. Donc, il utilise, on peut lire ça un peu comme un tableau, hein, entre augmenter la probabilité que le comportement se répète quand c'est un comportement qu'on trouve positif, ou diminue quand c'est un comportement qu'on trouve négatif. Et dans tous les cas, ça va venir jouer sur la question de agréable, désagréable. Vous voyez ? Alors, comme une récompense si on fait bien les choses, comme l'arrêt d'une souffrance si on fait bien les choses, comme une punition si on fait mal les choses, et comme l'arrêt d'une chose agréable si on a mal fait les choses. Donc c'est vraiment cette théorie que tout est comportement, donc tout peut se faire modeler. Alors c'est pas pour faire une critique des sciences comportementales en général, c'est vraiment à celle-ci que je m'adresse, et notamment ce que je trouve qui est différent, parce qu'en fait il y a des personnes qui trouvent des véritables ressources dans les théories comportementales pour arrêter des pratiques qui ne leur conviennent plus, notamment en termes d'addiction, tiens c'est marrant, mais c'est des processus qui sont faits par les individus eux-mêmes en choisissant sur quoi est-ce qu'ils veulent travailler. Là, on est vraiment dans une compréhension des mécanismes qui font que les humains évoluent dans leur manière d'agir, qu'on peut appliquer ensuite dans n'importe quoi, et notamment dans le travail. Alors donc, Amazon va fabriquer des jeux pour ses employés. Donc l'idée, c'est d'avoir une interface de jeu après le travail, dans lequel on peut exporter ses données sur comment est-ce qu'on a travaillé, quelle vitesse, etc. Et du coup, pouvoir gagner des points, et donc pouvoir être en compétition avec les autres collègues par rapport à la quantité de paquets qu'on a déplacés, parce que notamment, ces jeux-là sont du style Tetris, quoi. Et donc, c'est possible d'être donc en compétition avec soi-même, avec les autres, mais aussi au niveau des étages dans les entrepôts, de fabriquer de la corporation et de la compétition entre individus qui font le même travail, sont exploités de la même manière, et tout ceci pour rapporter le plus d'argent possible au patron. Et évidemment que quand on s'ennuie, on joue. Enfin, combien de fois aux toilettes, on a regardé les carrés et essayé de placer des choses dessus. Enfin, je veux dire, c'est un classique pour arrêter de s'ennuyer que de jouer. Mais ce n'est pas pareil quand c'est le patron qui décide que tu vas pouvoir transférer ton expérience de travail dans un jeu pour pouvoir ensuite gagner des prix. Alors, je vous propose d'écouter une musique qui va nous permettre d'illustrer le propos. Il s'agit de « Siffler en travaillant » de Isabelle Aubert. Nous sommes toujours dans Dégenré sur Radio Campus 90.8 et on parle de gamification du travail. Alors on peut parler de comment Jeff Bezos voudrait que ses salariés soient heureux et grâce au jeu qu'ils puissent développer leur courage et leur créativité et avoir moins d'ennuis. Mais on a des soupçons quand on réalise que, aussi pour la sécurité des employés, il a en 2016 proposé le brevet pour une cage à employés. Donc ça permettrait aux employés de se déplacer dans des espaces qui auraient été extrêmement robotisés et du coup que les étagères d'objets ne lui tombent pas dessus grâce à cette cage. Voilà. Donc oui, là on peut remarquer qu'en fait il y a des discours un peu divergents, hein, voilà, et qu'en fait la question du jeu n'est pas tant celle de faire que les employés soient plus heureux, mais faire que les patrons soient plus heureux, et parce que les employés seront plus performants et a priori auront une reconnaissance en fait de leur travail grâce à cette mesure cosmétique de faire du Tetris pendant leur temps de travail sans avoir à y penser. Donc on peut aussi parler de la question du jeu et de qui définit les règles. Parce que oui, les règles dans les jeux sont peu nombreuses, en général elles sont explicitées à l'avance et on sait comment gagner. Et on a des retours directs sur nos pratiques. Et ça, a priori, ça a l'air très important pour les humains d'avoir des retours sur ce qu'ils font et est-ce que c'est bien. Alors on n'est pas du tout au niveau éthique, hein, on est toujours dans un niveau quantitatif. L'espace de jeu est un espace qui n'a pas de conséquences quant à nos actes, où on suspend le cours de la réalité. Et les imaginaires des créateurs de jeux sont assez pauvres et on peut voir qui c'est qui fabrique les jeux en lien avec une dynamique de domination. Qui sont les personnes qui fabriquent ces univers? Quelles sont les représentations des personnes minoritaires et minorisées dans ces jeux On peut penser aux femmes très dévêtues. Mais dans tous les cas, les jeux sont très peu fabriqués pour développer des imaginaires. Ils sont plutôt fabriqués pour abrutir. On pourrait dire ça comme ça. Alors, un autre endroit où la gamification fait des grands progrès, c'est la question écologique. Voilà, parce qu'en fait, on relie ça à une question comportementale. A priori, le problème avec l'écologie, c'est pas du tout le capitalisme, c'est pas du tout la captation des matières premières, c'est pas du tout le fait que le capitalisme laisse des traces partout et exploite tout ce qui est à sa disposition pour faire de plus en plus de profits. Non, c'est les actions individuelles de manque de civisme. Donc là, la question du comportement, du redressement de comportement est aussi en jeu. Et on peut voir ça grâce à des vidéos qui se nomment assez clairement « Contrôle des foules ». Du coup, c'est des expérimentations autour de comment mettre en place des jeux qui vont permettre que les humains soient plus civilisés, je pense que c'est ça le bon terme, c'est-à-dire qu'ils fassent le travail que d'autres humains font. Alors on peut donner un exemple, celui de mettre des cibles dans les poubelles, ce qui permet de pouvoir gagner des points, et ensuite on voit des scènes où les gens se battent pour pouvoir avoir accès aux ordures, pour pouvoir ensuite jeter les ordures, en étant très très clair sur le fait que peut-être il faudrait être payé parce qu'on est en train de faire le travail des éboueurs. Je pense que quand on nous propose de jouer, il faut toujours bien regarder quelles sont les règles et à qui profite le jeu. C'est quelque chose d'assez classique que jouer nous fait passer le temps et jouer nous plaît, mais c'est pas du tout la même chose quand c'est le patron qui t'oblige à siffler en travaillant, quand c'est toi qui choisis de faire une partie de belote avec tes amis. On peut parler aussi de la manière dont ça conçoit autour de la question écologique, dont ça conçoit la question de la communauté. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui fait communauté, c'est les individus, les uns à côté des autres, qui ont le bon comportement et qui, du coup, font le bien de la communauté. Et du coup, il faut chasser les comportements qui ne sont pas les bons, en valorisant ou en punissant les autres. Donc ça, c'est vraiment un classique de la gouvernance. Mais là, la gouvernance se fait vraiment dans un cadre scientifique, informatique et avec des algorithmes. Il y a des personnes qui parlent de gouvernance des données. Et du coup, comment c'est aussi un fantasme d'une manière de prévoir comment les humains vont faire, qui soit complètement dénué d'émotion. Parce qu'a priori, l'émotion, c'est ça qui fait que les êtres ne sont pas rationnels et que ce qui est important, c'est la rationalité et notamment la rationalisation du profit. Alors la gamification, ça touche d'autres domaines, ça touche la question de l'éducation, hein, parce que jouer pour apprendre, a priori, ça fait partie de la base. Mais encore une fois, ça marche que quand on se fabrique ses propres jeux. Ou alors on a une capacité de négociation sur quelles sont les règles. C'est-à-dire que mieux vaut apprendre comment fabriquer des règles que apprendre comment les appliquer de manière docile. La gamification, elle vient aussi à d'autres endroits, elle vient aussi sur la question du recrutement. C'est-à-dire que des entreprises vont fabriquer des jeux pour ensuite pouvoir sélectionner des joueurs qui ont déjà les comportements qu'ils trouvent nécessaires pour l'entreprise. Ou encore, il va y avoir le jeu de rôle pour les managers pour pouvoir envisager toutes les situations possibles et être en mesure de répondre le mieux possible à une situation donnée. Donc on est vraiment sur cette question de comment prévoir toutes les possibilités pour ne jamais être sans ressources face à la possibilité de ce qui se passe. Alors la gamification, ça date des années 2000 et il existe quand même très peu de textes, en tout cas en français, qui viennent critiquer ça. Et par contre, il y a des revues scientifiques. Et Zoé, t'avais lu et tu voulais raconter des choses autour de ça, non ?
Oui, c'est vrai. En fait, il y a plein d'articles scientifiques qui sont écrits, ça fait quelques années, par exemple en 2017-2018, et là, ils commencent à chercher un peu quel est l'impact de la gamification sur le travail, sur les embauches, sur tout ça, parce qu'on a une tendance de penser qu'il n'y a que du positif quand on rend quelque chose plus ludique, etc. Mais c'est pas toujours juste du positif. Effectivement, on voit ça sur l'effet qu'il y a sur par rapport à l'âge, par rapport au genre, il y a des grosses différences sociologiques. Et il n'y a pas vraiment quelque chose de très spécifique encore. Par exemple, ils disent qu'en général, les meufs réagissent mieux au changement de comportement, à la modification du comportement que le gars. Mais ça, c'est un peu un classique aussi, non ?
Que les femmes ont plus l'habitude de modifier leur comportement pour accéder aux demandes ?
Oui, et aussi que... qu'il y a une tendance que s'il y a des règles à appliquer, bah, les meufs vont les appliquer. Il y a des gars qui vont être un petit peu saoulés par ça. Mais voilà, les études elles montrent ça. Et après, c'est pas des choses énormément fiables de ce qu'on a lu. Parce que ce qu'il disait, c'est qu'il y a des comportements féminins chez les gars et des comportements masculins chez les meufs. Et les tests qu'ils utilisent pour juger tout ça sont des tests qui datent des années 70. Et là, tous ces tests étaient un peu basés sur des stéréotypes un peu dégueulasses.
Ils existent toujours, mais ils sont moins classiques.
Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Et voilà. Du coup, on attend un peu que les années passent pour voir qu'est-ce que ça apporte vraiment, la gamification. Si on se verra embaucher à un moment seulement par des jeux. Et si, par exemple, les forums d'entreprise seront tenus dans des cybercafés.
Ben oui, parce que là, concrètement, des entreprises gamifiées, il y en a quelques exemples en France. Et donc, on a vu juste des pubs promotionnelles. Et c'est ce qui a l'air de revenir assez régulièrement, c'est que c'est important de faire des points météo et de partager les nouvelles. Et du coup, ça permet de mettre au même niveau et au même moment les objectifs de productivité de la journée, mais aussi la nouvelle que machin et machin ont eu un appartement.
Ouais.
Voilà. Et tout ça se fait aussi dans une dimension, on pourrait dire concrètement, de pinkwashing. Enfin, si je pense à Alexa et Amazon, là, toutes les pubs qui sont faites, c'est beaucoup autour de questions LGBT et comment, du coup, Amazon et Alexa aident les enfants à faire leur coming out,
ouais,
sans avoir à parler à leur famille.
Ouais.
Donc on est vraiment dans tout ce côté très pub, très la famille, très tout ça là. La famille, la consommation, la joie et le travail d'une manière. Et surtout le jeu, parce que c'est important de jouer. Alors on se dit que, à plein d'endroits, il y a des personnes qui critiquent, il y a des personnes qui se mettent ensemble pour critiquer, pour se syndiquer, pour faire tout ça. Nous, on espère que cette émission avec Dégenré, elle aura aussi servi à ça, à comprendre ce qui se passe, même si on sait qu'on ne fait que effleurer certains sujets et qu'il y aurait besoin de creuser. Et ce qu'on choisit de faire, c'est de vous laisser le faire. Et dans tous les cas, jouer et apprendre, c'est des choses qui plaisent. Et c'est pas la peine de les laisser aux patrons les plus riches du monde, mais de se dire que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Et comme ça, peut-être, on découvrira des choses qu'ils n'ont pas prévues.
Oui.
Et aussi, une dernière chose que j'avais envie de dire par rapport à la dimension féminine des voix, c'est que souvent les voix sont vues comme... les voix féminines sont vues comme invitantes à jouer, mais aussi un peu désagréables sur ce côté très suivre les règles, etc. Et du coup, très pop, quoi. Et c'est vrai que c'est assez désagréable, en fait, d'écouter plein de vidéos où des jeunes femmes racontent ce que c'est la ludification avec une voix où on entend le sourire. Hein, on entend le sourire derrière et on se dit c'est pas possible d'autant sourire.
Oui, c'est ça, et c'est un peu les deux explications, les deux définitions qu'on a passées de la gamification et des objets connectés, d'Internet des objets. On entendait bien le sourire dans les phrases.
Oui, et c'en était presque désagréable. Parce que ça fait qu'on nous parle de processus de contrôle et de sécurité avec quelque chose qui nous donne envie de sourire et de dire que la vie est bien et que c'est pas grave si Amazon vend à la police les données privées des caméras domestiques à Orlando. Non, 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 ça fait plus de sécurité pour tout le monde et c'est super, voilà.
Mais bien sûr.
Donc, on vous laisse là-dessus et bonne réflexion sur le jeu, la misogynie et le capitalisme.
On va fermer avec un morceau de Combine les Ruines qui s'appelle Dépossession et c'est un morceau enregistré en live spécialement pour cette émission d'aujourd'hui. Alors merci beaucoup.
Enfermés, nous les bougres et bougresses qui étions accusés d'un excès de paresse. Nous n'avions pas envie, parce que d'autres moyens d'aller perdre nos vies en allant au turbin. Mais pour nous y forcer, ils ont créé des lois. Les livrés ouvriers qui contrôlent les emplois pour fixer la main d'œuvre et pour tout encadrer leur vilaine manœuvre, nous y ont condamné. Clôture nous privait chaque jour de nos anciennes pâtures, de nos terres de labour, tous les bois et les champs qu'on avait en commun. Paysannes, paysans, n'avions plus que nos mains. Alors nos ptions, nos ptiotes sont partis dans les villes fabriquer la camelote des patrons les plus vils. Et quand elles revenaient, elles ne savaient plus faire ce qui nous nourrissait et qui pouvait nous plaire. Satanées machines qu'ils ont pondues en diable, qui nous rendent imbéciles, qui nous rendent incapables des objets par milliers, de ceux qui empoisonnent, qui nous font oublier nos pratiques autonomes. Ils disaient qu'on avait pas lourd dans la cervelle, et qu'en plus on était de dangereuses rebelles. Alors grâce aux lumières, en nous civilisant, ils nous ont mis à terre, en nous disciplinant.
Only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. In America, we like solutions. We like solutions to problems, and there's so many companies that offer solutions.
Companies with names like The Pet Solution, The Hair Solution, The Debt Solution, The World Solution, The Sushi Solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Let's say you're invited to be on Oprah, and you don't have a problem. But you want to go on the show, and so you need a problem. And so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem. And so you're probably going to get nailed. You're going to get exposed. And you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness.
Because only an expert can deal with the problem.
The shows that try to solve your problems. The big question is always, how can I get control? How can I take control? But don't forget, this is a question for the regular viewer. The person who's barely getting by. The person who's watching shows about people with problems. The person who's one of the 60% of the US population. 1.3 weeks away. 1.3 paychecks away from a shelter. In other words, a person with problems. So when experts say, let's get to the root of the problem, let's take control of the problem, because if you take control of the problem, you can solve the problem. Often this doesn't work at all because the situation is completely out of control.
Because only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem.
Sometimes experts lend you money, and sometimes they lend you lots of money. And sometimes when the subprime mortgages collapse, and banks close and businesses fail, and the crisis spreads around the world, sometimes other experts say, just because all the markets crashed, doesn't mean it's necessarily a bad thing. And other experts say, just because all your friends were fired and your family's broke and we didn't see it coming doesn't mean that we were wrong. Lost your job and your house and all your savings doesn't mean that you don't have to pay for the bailouts for the traders and the bankers and the speculators. Because only an expert can design a bailout.